Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de destination CRFPA. Ce doit être le 12e épisode et aujourd'hui, je vais changer mes habitudes puisque pour le moment, je ne vous parlais que de nourriture. Et là, j'ai eu accès à la plaidoirie de Richard Malka au procès de Charlie Hebdo. Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo donc. Et je souhaitais vous en lire une partie. Si jamais l'ensemble de la plaidoirie vous intéresse, je pourrais le mettre sur Discord pour que vous puissiez le lire. Juste pour rappel, donc le procès Charlie Hebdo, c'est le procès des attentats. C'est le procès donc de l'hypercacher qui a commencé le 2 septembre. Et l'avocat de Charlie Hebdo, donc Richard Malka, qui est l'avocat historique de Charlie Hebdo, je vous fais lecture de certaines parties de la plaidoirie, pas de la totalité, puisqu'elle est trop longue sur Word, ça me fait un document 6 pages. Donc c'est un peu long. Donc Richard Malka en parlant du procès. Il a été épique, tragique, tourmenté. Il a déclenché la fureur du monde. Il a été ponctué d'attentats. Il nous a livré la parole bouleversante des victimes et nous a perdus dans les tentatives d'explication des accusés. Son sens, c'est évidemment et d'abord de juger ses accusés. C'est de démontrer que le droit prime la force. Tout cela est déjà énorme. Et dans n'importe quel procès, ce serait suffisant. Mais pas là. Pas au regard des crimes commis. Les attentats de l'hypercacher et de Charlie ne sont pas que des crimes. Ils ont une portée politique, philosophique, métaphysique. Ils convergent vers la même idée. Ils ont le même but. Quand Koulibaly tue des juifs, il ne tue pas que des juifs, il tue l'autre. Charlie Hebdo aussi, c'est l'autre. Le sens de ces crimes, c'est l'annihilation de l'autre, de la différence. Si l'on ne répond pas à cela, on ne se sera arrêté en chemin. Je ne plaide pas pour l'histoire, je n'en ai rien à faire de l'histoire. Je veux plaider pour aujourd'hui, pas pour demain. Pour les hommes d'ici et maintenant, pas pour les historiens du futur. Le futur, c'est comme le ciel. C'est virtuel. C'est à nous et à nous seuls qu'il revient de s'engager, de réfléchir et parfois de prendre des risques pour rester libre d'être ce que nous voulons. C'est à nous et à personne d'autre de trouver les mots, de les prononcer pour recouvrir le son des couteaux sous nos gorges. À nous de rire, de dessiner, de jouir de nos libertés face à des fanatiques qui voudront nous imposer leur monde de névrose et de frustration. C'est à nous de nous battre pour rester libre. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Le message de ces terroristes est clair. Ils nous disent « Vos mots, vos indignations ne servent à rien. On continuera à vous tuer. Vos juges, vos procès sont indifférents. Vos lois sont des blagues. Nous ne répondrons qu'à celles du ciel. » Ils nous disent de renoncer à la liberté parce qu'un couteau et un hochoir seront plus forts que 67 millions de Français, une armée et une police. C'est l'arme de la peur pour nous faire abandonner un mode de vie construit au fil des siècles. Et évidemment, ça ne s'arrêtera pas aux caricatures. Ni même à la liberté d'expression. Ils détestent nos libertés, ils ne s'arrêteront pas, parce que nous sommes un des rares peuples au monde à être porteurs d'un universalisme qui s'oppose au leur. Qu'est-ce que cette nouvelle guerre qui oppose des dessinateurs avec leurs crayons, des enseignants avec leurs tableaux, à des fanatiques armés de kalachnikov ou d'ustensiles de boucherie? Par quel enchevêtrement d'idées, de discours et d'errements en est-on arrivé à ce que, pour la première fois dans le monde occidental depuis la fin de la guerre, un journal soit décimé avant de devoir se retrancher dans un bunker à l'adresse secrète. Qui a nourri le crocodile en espérant être le dernier à être mangé? Parce que c'est toujours la même chose. Quand on est confronté à la peur, certains choisissent de pactiser. Ensuite, Richard Malka raconte l'histoire du blasphème, je vous la lis. En 1789, la liberté d'expression est proclamée comme un des droits les plus précieux de l'homme. 2 ans plus tard, on sort le blasphème du code pénal. En 1881, on vote la grande loi sur la liberté de la presse. Les débats font rage à l'Assemblée et c'est frappant de constater à quel point ils se focalisent sur ceux d'aujourd'hui, le dessin et la religion. C'est comme si Charlie Hebdo existait déjà. Dieu se défendra bien lui-même. Il n'a pas besoin pour cela de la Chambre des députés, répond Clémenceau à l'évêque d'Angers qui invoque la blessure des catholiques outragés. Alors vous voyez, on n'a pas le choix. Renoncer à la libre critique des religions, renoncer aux caricatures de Mahomet, ce serait renoncer à notre histoire, à l'encyclopédie, aux grandes lois de la République. Renoncer à enseigner que l'homme descend du singe et pas d'un songe. Renoncer à l'égalité pour les femmes, qui ne sont pas la moitié des hommes, à l'égalité pour les homosexuels, Alors que bizarrement, dans 72 pays au monde, les mêmes ou à peu près que ceux qui ont encore une législation contre le blasphème, l'homosexualité est encore une abomination. Alors, j'en viens à l'histoire de Charlie, la personne morale que je représente. En 1960, nous sommes dans la France corsetée du général de Gaulle. Cavanna rencontre Choron. Il décide de créer un journal transgressif pour bousculer les mœurs. Un journal essentiellement fait de dessins. C'est Harakiri. Le slogan de ce journal au départ, c'est Si tu ne peux pas l'acheter, vole-le. Cabu va les rejoindre, puis GB, Topor, Volinsky, Reisser. En 1970, c'est l'interdiction. Le 1er novembre, il y avait eu un incendie. 146 morts dans une discothèque. Le 9 novembre, le général de Gaulle meurt. Et le 16 novembre, Harakiri titre Balle tragique à Colombey, un mort. Ça n'a pas du tout plu au ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcellin, qui ne doit d'ailleurs sa postérité qu'à cela. L'interdiction d'Harakiri. À l'époque, il existait un Charlie mensuel dirigé par Volinsky. Il a été décidé de faire une déclinaison hebdomadaire, c'est-à-dire que le fondement de l'existence de Charlie, c'est la censure de son ancêtre. Et son premier numéro va être consacré à la censure. C'est l'ADN de ce journal. Arrive 1980. La gauche est au pouvoir, ce n'est plus le temps de la transgression. Les ventes du journal s'effondrent. 10 ans d'interruption. 1992, sous la houlette de Philippe Valle, l'équipe se reforme. Cabu, Volinsky, GB, Guébé, Cavanna et Renaud, le chanteur, décident de relancer Charlie Hebdo. C'est la formule que vous connaissez aujourd'hui. Et je me revois rédigeant les statuts de ce journal, probablement bien mal, j'avais 23 ans. Par une triste ironie de l'histoire, ses créateurs avaient décidé d'appeler la société éditrice de ce journal la société Kalachnikov. Sous la houlette de Philippe Valle, ce journal est devenu une pépinière de talents. Mélangeant les anciens et les modernes, Ciné, Johann Sfar, Jules, Riyad Satouf, Catherine Meurice, Fourest, Corcuff, Polak, Cavanna, Guébé, tant d'autres sont passés par là. C'est devenu un journal d'une richesse incroyable. Des crises, des ruptures, des psychodrames, il y en a eu tant que je ne peux m'en rappeler. Mais il y a un point sur lequel tous les hommes étaient toujours d'accord. La liberté d'expression. La libre critique des religions. Pas des hommes à raison de leur religion. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est du racisme ou de l'antisémitisme. Mais la libre critique des idées, des opinions, des croyances. Et puis, il y a eu l'attentat. Et ce journal continue à faire vivre ce rire. Et ce journal continue à vivre. Il vit dans un bunker, mais il vit. Il vit entouré de policiers, mais il vit. Il vit avec des collaborateurs qui ne peuvent plus se déplacer avec leurs époux et leurs enfants, mais il vit. Il vit sous les menaces. Il vit avec les disparus et les blessés. Il vit avec les milliers de difficultés. Il vit grâce à ses lecteurs. Il vit grâce à cette merveilleuse banalité du bien. Il vit grâce à l'aide de ceux, anonymes, qui viennent à son secours tous les jours. Il vit aussi grâce à ceux que vous avez vus à notre bar et qui vivent plus intensément et plus profondément que nous tous. Ils pourraient tous nous tuer, ça ne servirait plus à rien, parce que Charlie est devenu une idée. Et Charlie pourrait disparaître aujourd'hui. Cette idée vivrait encore. On ne peut pas tuer une idée. Ce n'est pas la peine d'essayer. Charlie Hebdo, vous en avez fait un symbole. Vous nous en avez fait une idée. On ne la tuera plus. Voilà, je m'arrête là dans la retranscription de la plaidoirie de Richard Malka. Une fois encore, si vous voulez que je vous envoie le document que j'ai, envoyez un message sur Discord, sur Facebook, et on vous le fera passer. C'est moins drôle que le foie gras, que la conchyliculture et le droit des poules, mais c'est un sujet qui me plaisait particulièrement. J'espère qu'il vous a plu et je vous souhaite une bonne journée.